Bonjour à tous et bienvenue à l'Institut des Libertés pour un nouveau délit d'opinion. Aujourd'hui, nous allons évoquer un sujet qu'on a déjà maintes fois évoqué, mais à chaque fois, et même quand le sujet est identique, la façon dont on en parle ne l'est pas forcément.
Mais on en
Voilà.
pense toujours du mal.
On en pense toujours du mal, bien sûr. Donc aujourd'hui, je voudrais parler du budget français, budget qui est vraiment très problématique, puisque là, aux dernières nouvelles, donc c'était pour le budget 2024, on était à plus de 6% de déficit. On était déjà à 5,5 l'année précédente, et à chaque fois, on constate que les prévisions. On pense toujours qu'on va avoir un budget un petit peu plus raisonnable l'année prochaine que cette année.
Et puis les dépenses augmentent de façon tout à fait
Ouais,
inattendue,
ouais.
et à
Et de
chaque fois,
manière non intentionnelle.
et de manière non intentionnelle, c'est-à-dire qu'il y a des systèmes de dérapage qui ont été mis en place, qui sont incontrôlés, et parfois les recettes sont inférieures aux prévisions aussi. Donc,
Ouais.
si vous voulez, ce serait une société privée. Il y a longtemps qu'on aurait viré le conseil d'administration, aurait viré
Ouais.
le management.
Ouais, c'est clair. C'est-à-dire qu'en gros, juste avant le Covid, on était à peu près à 3%, 3% et demi de déficit. Et avec le Covid, il y a eu le quoi qu'il en coûte. Donc d'un seul coup, ça a explosé. Et depuis le Covid, on n'arrive pas à faire rebaisser le déficit, en fait, en dessous des 5%. Donc là, on est dans une dérive très
Ben
très naturelle.
5%, c'est très supérieur au taux de croissance de l'économie.
Largement, ouais.
Donc à 5% de la dette qui s'accumule à 5%, comme notre richesse s'accumule, mettons au mieux, allez, soyons optimistes, à 3,5%, ça veut dire qu'on a 1,5% de dérive chaque année,
Ouais.
et que si vous, du déficit budgétaire. Donc 1,5% capitalisé tous les ans, au bout d'un certain temps, ça finit par faire de l'argent, quoi.
C'est clair. Et du coup, on a un taux de croissance qui est aux alentours des
1,5.
1 et encore.
Zéro.
Et encore. On est plus proche des 0,8, quelque chose comme ça. Et
Et
là.
lorsque j'ai regardé les croissances, ce qui est très étonnant, c'est qu'on me dit que c'était moins 0,1 pour
Ouais.
le dernier trimestre,
De
dernier
2024,
trimestre,
oui,
et
tout à fait.
puis plus 0,1 pour le deuxième, pour le
Oui.
premier. Donc ça fait zéro, donc on n'a pas de récession.
Oui.
Mais en fait, il y a eu une augmentation de 0,8 des stocks, ce qui veut dire que c'est comme ça que notre PIB a cru. C'est-à-dire qu'il y a des tas de produits que les Français ont achetés qui n'ont pas été, que les vendeurs, les acheteurs, les magasins français, par exemple, ont acheté et qui n'ont pas été vendus. Donc ça veut dire qu'on a trop de stocks. Donc l'année, le trimestre prochain, ces stocks vont être liquidés et pas rachetés. Et donc on va avoir une baisse de 0,8. Donc c'est ce que je dis depuis le début, depuis des mois. C'est-à-dire la France est dans une récession profonde déjà aujourd'hui, quoi. Le déficit budgétaire va exploser.
Ouais. Et la dette,
On n'y
alors
peut
on est
rien, c'est
à.
fait.
Ouais. La dette, elle est entre 110 et 120% du PIB. À chaque fois, les charges aussi, c'est-à-dire les intérêts de la dette, s'alourdissent chaque année. C'était 50 milliards d'intérêts en 2024 contre juste 41 milliards en 2022. Donc on voit qu'il y a une augmentation de 10 milliards en l'espace de 2 ans. Et à chaque fois, ça va de
Ah
mal
ben
en
là,
pis.
la première, mes calculs que je fais sur l'arrière d'une enveloppe, comme on dit, comme ça, assez facile, on va être à 70, quoi, assez vite.
Oui, ah bah oui, clairement,
Ben oui,
bien
à
sûr.
l'aller-retour, ça va, parce qu'on remplace des dettes qu'on a émises il y a, mettons, je crois que la duration moyenne de la dette est de 7 ans et demi ou 8 ans, donc on a mis à 8 ans à 1% pour le remplacer de la dette à 4%, alors on pensait
Ouais.
mieux à 3%, donc on pensait bien que là aussi ça fait un petit delta de 2%, les points.
C'est ça. C'est-à-dire que nous, notre dette aussi, elle est à 3% et demi. Et alors, l'autre jour, il y avait Cédric qui m'expliquait un truc intéressant. C'est que, comme on le sait, l'Allemagne va émettre pas mal de dettes,
Oui.
notamment pour financer son armée. Or, il y a tout un tas comment dire, de fonds d'investissement, d'institutions financières qui, pour des raisons légales ou même parce qu'elles en ont envie, souhaitent détenir des dettes, des créances d'États européens, c'est-à-dire de dettes, on va dire, bien notées, entre guillemets. Voilà, ils veulent de la dette européenne. Bon, le truc, c'est que ça les embête quand l'Allemagne n'émet pas du tout de dettes, puisque ça veut dire que ces institutions ne peuvent pas en acheter. Donc, ce qu'elles font d'habitude, c'est qu'elles achètent de la dette française. Et là, ce qui risque de nous arriver, c'est que comme l'Allemagne se remet à émettre de la dette,
Et que notre dotation va être baissée.
et que notre notation va être baissée, bien sûr, on va en parler, eh bien, il y aura moins d'institutions donc qui vont vouloir se diriger vers la dette française et qui vont
Et qu'est-ce
privilégier
qui se
la dette
passe si
allemande.
après la baisse de la notation, il y a des institutions qui sont forcées de vendre notre dette parce qu'elle est plus conforme
Tout à
à
fait.
la réglementation?
Tout à fait. C'est-à-dire que là, c'est très intéressant. On a les trois grandes agences de notation, Moody's, Fitch, Standard & Poor's, qui ont la même note, c'est-à-dire AA- ou équivalent. Or, ce qui se passe, c'est que là, ça fait à peu près 1 an ou 2 ans pour certaines que notre dette est notée de la sorte. Et à chaque fois qu'il s'agit de noter, là, depuis à peu près 1 an, les institutions financières disent c'est pire qu'avant, mais on vous dégrade pas encore la note.
Le mieux, ça a été quoi? Standard & Poor's ou Moody's qui a dit non,
Ouais, on refuse
on
de vous
refuse de vous
noter.
noter.
Ouais.
C'est comme
Ouais.
quand on avait refusé de noter. Vous savez, quand Maxime avait cessé d'être à mon restaurant, Maxime, qui était un restaurant de la belle époque et tout, avait refusé, c'était il y a 20 ans, avait cessé d'être à mon restaurant, c'était devenu un truc assez quelconque. Il avait 3 étoiles et Michelin a refusé de noter Maxime.
Ouais.
Il n'avait plus de notes.
Ouais.
Plus de notes.
Et ben c'est ce qui nous est arrivé. Et donc aujourd'hui on est.
Et la bouffe, c'est pas amélioré.
Voilà. Oui, c'est pas pour autant que. Ouais.
C'est pas pour autant que la boucle s'est améliorée, donc
C'est
c'est.
clair. Et ce qui se passe, donc vous l'avez évoqué, c'est que si on a une notation qui descend en dessous de AA-, il y aura tout un tas d'institutions financières qui détiennent de la dette française, qui, d'un point de vue pas légal mais réglementaire, par rapport à leur règlement interne, vont dire, eh ben, je suis obligé de vendre la dette française parce que, tout simplement, mes clients, ils vont chez moi pour avoir de la dette, on va dire, bien notée, d'un bon niveau. Et si vous descendez en dessous de ce niveau, nous, on fait confiance à Moody's, d'autres, ils font confiance à Fitch, etc. Et ben, si Moody's descend la note de la France, nous, on travaille avec Moody's, et donc, on va être obligé de vendre votre dette. Et là, ça va être la question qui va lâcher.
Je sais pas, vous, avec
Alors,
votre
si j'ai un
épargne.
pistolet sur la tempe, peut-être,
Non, 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 j'entends
sinon.
bien, mais comme ça sera pas les institutions, comme
Ouais.
ça sera pas la BCE, comme ça sera pas l'Allemagne, comme ça sera pas le FMI, comme ça sera pas aucune des institutions sérieuses, qu'est-ce qui reste à la France comme possibilité de forcer ceux qui doivent obéir à l'État français à acheter cette dette? Non, c'est
Ouais,
tout.
ouais.
Vous? C'est pour
Oui.
ça que je me dis,
Oui.
vous avez une tête de victime, ça me
Oui.
paraît bien.
Oui.
Ça me
Je paye
paraît.
des impôts et je respecte la loi, donc oui.
Donc vous allez en plus un mâle blanc. Ok, vous
Ouais,
êtes un peu jeune,
non,
vous
c'est
n'avez
bon,
pas
j'y.
40 ans. Mais vous êtes en passe de devenir un mâle blanc ancien.
Bien sûr, bah c'est un problème qui sera réglé avec le temps.
Oui, donc vous êtes mal barré, quand même.
Oui, c'est clair, c'est clair.
En tout cas, vos parents, ils y ont droit. Hein.
Ah oui, bah mes parents,
Vous
oui.
les avez prévenus?
Je pense qu'ils savent, je pense qu'ils
Vous
sont au
n'avez
courant
pas
déjà.
besoin de vous la peigner.
Ouais, non, je crois que c'est bon.
C'est bon?
Et donc, bah, on a un énorme problème budgétaire en France. On a la masse salariale de la fonction publique qui représente 12,3% du PIB. Alors, c'est très supérieur à la moyenne de la zone euro qui est autour de 9,8%. De même, les prestations sociales atteignent 25% du PIB, malgré un taux de prélèvement obligatoire très élevé qui est estimé à 43,5% du PIB en 2023, donc l'un des plus hauts d'Europe et puis des pays de l'OCDE. Donc, globalement, la question que je voudrais me poser dans cette émission, c'est par où il faut commencer pour régler cette question du budget? C'est une vaste question. Et qui va souffrir?
Alors, première réponse que je vais vous faire tranquillement, et ça j'en suis à peu près certain, contrairement à ce que dit Monsieur Lombard, c'est pas en augmentant les impôts qu'on va régler le problème, puisqu'on est très certainement de l'autre côté de ce qu'on appelle la courbe de l'affaire, c'est-à-dire que si on augmente les impôts maintenant, les recettes vont baisser. Les recettes de TVA, etc. vont baisser. Donc, c'est en aucun cas en augmentant les impôts qu'on peut régler le problème. Donc, il ne reste que la diminution des dépenses. Mais là, on a un très léger problème aussi. C'est que si je regarde l'origine, à peu près le tiers du creusement du déficit depuis une dizaine d'années, ça vient du paiement des retraites de la fonction publique qui n'est pas provisionné dans les comptes.
Oui, absolument. Vous avez raison de le dire. C'est quelque chose de très important. C'est quand on parle des retraites, en fait, c'est on voit les retraites, le budget retraite, c'est les retraites du secteur privé.
C'est-à-dire que la plupart des Français se disent, mais attendez, j'ai cotisé, et comment ça se fait maintenant j'ai cotisé, pourquoi j'ai pas... Ils s'imaginent qu'ils ont mis dans une petite tirelire à leur nom, qu'on va casser la tirelire et qu'ils vont avoir le truc. Oui. Mais c'est pas comme ça que ça marche.
Oui, c'est pas comme ça que ça marche. Dans un système par répartition, on ne cotise pas pour soi, on cotise en quelque sorte
mais
pour acquérir un droit.
Mais la fonction publique n'a pas cotisé.
Oui, c'est-à-dire que c'est pas du tout la même chose. Alors l'État vous dit que vous avez un taux de cotisation de 80% quand vous êtes dans la fonction publique, mais évidemment l'État il peut vous dire n'importe quoi. Enfin, je veux dire, il peut décider que votre salaire est largement mirobolant par rapport à ce que, par rapport au net
et
que vous recevez.
Et dans la fonction publique, ce qui se passe avec beaucoup de sympathie et de sens social, c'est que très souvent dans les 6 derniers mois avant votre retraite, on vous fait sauter quelques échelons administratifs pour que vous puissiez une retraite très beaucoup plus importante.
Bien sûr, parce qu'il y a ça aussi dans la fonction publique.
Les pensions, les retraites, c'est en général, je sais pas, mais dans la fonction publique, j'ai lu que c'était quelque chose comme 80% du dernier salaire, lequel avait été augmenté faussement. Quoi.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on fait, on se concentre sur ce que vous gagnez à la toute fin de votre carrière quand vous êtes dans la fonction publique.
À la base de la moyenne de ce que vous avez payé.
Voilà. Alors que quand on est dans le privé, on regarde beaucoup plus l'ensemble des, au moins des dernières années. Donc c'est vraiment pas du tout la même manière de fonctionner.
Donc, l'une des seules pistes à creuser, c'est d'interdire aux fonctionnaires de prendre leur retraite et de plus en embaucher.
Alors ça, c'est...
Ça serait bien, ça, non ?
Oui, mais alors, ça va être compliqué de leur faire avaler, quand même.
Ah oui ?
De leur dire, vous n'avez pas de retraite, d'un seul coup, c'est...
Mais c'est un honneur de travailler, non, pour sauver la... Si on est dans la fonction publique, on est là. Pour le bien commun.
Oui.
Donc, je sais pas, il me semble que tous les types devraient se précipiter avec enthousiasme. Vous savez, c'est comme en Corée, quand ils font grève, ils se mettent pas en grève, ils mettent un brassard rouge pour dire qu'ils sont pas contents et qu'ils sont en grève, mais ils bossent.
Ah ouais.
On pourrait faire ça, tous les fonctionnaires à la retraite, on mettrait un brassard rouge et on leur disait vous allez bosser. Non, moi je crois pas que ça va être retenu. Hein.
Non, je pense pas que ça va être retenu.
C'est bizarre.
Mais effectivement, ce que vous dites, c'est hyper important parce que les retraites du secteur public, en fait, sont comprises dans les budgets des ministères. Donc ainsi, c'est, je crois, 20 ou 25% du budget de l'éducation nationale qui est alloué à la retraite de l'éducation nationale. Et donc on se dit pareil, c'est pareil dans le système de santé, dans l'hôpital privé, etc.
C'est injuste parce que les types qui ont travaillé de la même façon dans le secteur privé d'éducation, dans ce qu'on appelle les écoles libres, ce qui d'ailleurs suggère que les écoles, les autres ne sont pas libres, ce qui est tout à fait exact d'ailleurs, elles ne sont pas libres
tout.
Elles sont sous le contrôle de gens très, très désagréables. Donc les écoles libres, les types qui a travaillé autant que les autres, il a une retraite qui est de 10 à 15% inférieur.
Ouais.
Ça lui apprendra à travailler dans la liberté à la place de travailler dans la contrainte. Quoi.
Absolument. Mais oui, c'est hyper important parce que voilà, on a tout un pan du budget des retraites déjà qui est déjà le
et
budget
ça n'est pas dans la dette publique. Hein.
Oui, non.
C'est-à-dire que vous savez quand on vous dit la France a 3200, c'est sans qu'on, il faudrait faire une valorisation actualisée de ces retraites.
Oui.
Qu'on va devoir payer et les rajouter à la dette publique parce que c'est pas parce qu'elles sont pas dans les comptes qu'elles sont pas là puisqu'on devra les payer donc donc voilà c'est un sujet intéressant. On est beaucoup plus près de 6000 milliards d'euros de dette qu'on est de 3300 quoi.
C'est tout à fait possible.
Mais c'est intéressant parce que si vous regardez un pays comme la France, j'ai lu il y a quelques années, je sais pas si c'est toujours vrai, qu'on crée un peu le pays, on crée à peu près 1% de la valeur mondiale, l'économie française, qui est bien, et qu'on avait à peu près 9% des dépenses sociales du monde. Donc, il y a comme une légère différence. Je vois pas comment ça peut tenir. Si vous avez 1% de la valeur créée et 9% des dépenses sociales, il me semble qu'il y a un moment où les gens qui supportent ça vont tous faire faillite. Non, je sais pas, ça me paraît...
C'est
ce qui est passé. On s'est désindustrialisé. On en a beaucoup parlé ici. Oui.
C'est clair. C'est-à-dire que vous avez évoqué tout à fait l'effet de l'affaire. C'est-à-dire que on ponctionne de plus en plus les actifs. Déjà, les actifs qui sont ponctionnés, les revenus imposables, ils sont moins de la moitié de la population, déjà.
Et puis ils s'en vont en courant. Hein.
Ils s'en vont. Et puis même quand ils s'en vont pas, en fait, ça décourage le travail. C'est toute la thèse de l'effet l'affaire. C'est tout simplement, imaginez que vous travaillez toute la semaine. Le lundi, on vous ponctionne 0% de ce que vous gagnez. Le mardi, on vous ponctionne 10% de ce que vous gagnez. Le mercredi, on vous ponctionne 30%. Le jeudi, 40%. Le vendredi, 70%. Et le samedi, 90%. Bon, bah, vous allez travailler combien de jours dans la semaine? C'est un peu ça le principe de l'effet l'affaire. Au bout d'un moment, on se dit, bah, ça vaut plus le coup de travailler puisque par rapport à ce que je gagne le lundi, vraiment, ça sert à rien.
Pêcher et que je vende mes poissons.
Voilà, absolument. Donc, ça sert vraiment à rien. Donc c'est ce qu'on se dit, tout simplement. C'est-à-dire que vous travaillez beaucoup plus, mais vous gagnez pas beaucoup plus. Donc, je veux dire, à ce moment-là, il y a vraiment aucun intérêt, en fait, rationnel à travailler davantage et donc à produire davantage et donc à avoir un pays productif.
Et, d'ailleurs, on a le moins d'heures payées, le moins d'heures travaillées par citoyen français, je crois, je me demande si c'est pas du monde entier. La France qui travaille le moins.
Alors oui, mais c'est en moyenne. C'est-à-dire que le travailleur français travaille pas forcément moins que les autres travailleurs. En revanche, il y a tellement de gens qui bossent pas que effectivement, en moyenne, le français, pris dans son ensemble, travaille moins que les autres.
Parce qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent pas chez nous.
Oui, c'est ça.
Ben, c'est comme.
Il y a beaucoup de chômage, beaucoup de RSA, de.
Oui. C'est bien triste, mon bon monsieur, c'est comme ce qu'on m'avait expliqué sur le réchauffement atmosphérique dans le bouquin de Rankine, là, qui était très bien. Il disait, ah oui, la température moyenne est montée, mais pas du tout la température maximum. C'est les températures minimum qui sont passées de moins 50 à moins 40. Mmh. Alors je suis sûr que ça change tout, mais ça veut dire que la moyenne est beaucoup montée. Donc on dit la température est montée d'1%, mais il ne fait pas plus chaud à l'hiver à Avignon, pas en été, pour autant, quoi. Il fait toujours la même température, donc... Il faut se méfier terriblement des moyennes, parce que en moyenne, quand vous êtes le El Paso, là, le fleuve au Texas, là, en moyenne, il a 2 mètres de tirant d'eau. Mm-hmm. Sauf qu'en hiver, il y en a 4 mètres, et en été, il y en a 0. Quoi.
Ouais.
Donc si vous voulez traverser à pied...
Il suffit d'attendre l'été.
Oui, d'accord, mais si vous vous êtes dit « j'ai pas besoin de savoir nager pour traverser
ouais. »,
il y a des moments où c'est idiot, quoi. Vous avez besoin de savoir nager. Quoi.
Ouais.
Donc tout ça, c'est toutes ces utilisations de la moyenne... C'est toujours extraordinairement faux.
Ouais, mais du coup, voilà, cette statistique, elle est un peu à double tranchant parce que on peut se dire, comment ça se fait, effectivement, les Français travaillent moins que les autres, donc il faut que ceux qui bossent encore plus.
Mais c'est peut-être les Français de souche qui travaillent comme les autres.
Peut-être.
Je sais pas. Non, c'est vous qui l'avez dit, c'est pas moi. Je vous ai entendu là.
Non mais après, alors je pense que les immigrés qui travaillent pas forcément moins que les autres. En revanche, c'est vrai qu'il y a des taux de chômage chez les descendants d'immigrés qui sont extrêmement élevés. Je pense notamment au chiffre des descendants algériens où là les taux de chômage dépassent je crois les 40%. Donc là c'est quand même assez inquiétant, effectivement.
Ça leur laisse le temps d'aller au match de foot.
Oui, et de faire plein d'activités les matchs de foot, pendant les matchs de foot, après les matchs de foot.
Ils ont des activités ludiques, on va pas les en empêcher.
Alors visiblement, ils ont pas regardé la finale de Roland Garros, parce que il s'est rien passé.
Il s'est rien passé, mais je veux dire, ils veulent te vanner, parce que moi je l'ai regardé, 5 heures à jouer à ce niveau-là, moi j'ai beaucoup joué au tennis, mais au bout d'une heure, une heure et demie, j'étais fatigué, et eux, 5 heures, ils ont continué à taper comme des bourrins, 5 heures de suite, et puis c'était beau. Enfin, je veux dire, jamais eu un match de tennis de cette qualité, jamais.
C'était
incroyable.
C'est sûr, c'était un match magnifique. C'est pas souvent qu'une finale de Grand Chelem se termine comme ça au super tie-break.
À bout de 5 heures.
Ça n'arrive jamais.
Non, c'était intéressant.
C'est vrai, on a eu 5-7, et en plus 5-7, les 5 étaient plutôt serrés, en plus, donc c'était vraiment dingue. Enfin bref, pour revenir à nos moutons, on a déjà évoqué le fait que beaucoup d'institutions internationales dégradaient la note de la France, et même quand elles la dégradaient pas, elles disaient « bon, quand même, les amis, va falloir revenir un peu à des choses sérieuses ». Notamment, ce qu'elles disent, c'est « on attend que vous nous présentiez un projet de loi de finances qui tient la route ».
Mais il n'y a pas de gouvernement.
Et voilà, il n'y a pas de gouvernement. Enfin, on a l'impression, en tout cas, qu'il n'y en a pas. Ou du moins qu'il est...
Il n'a pas de majorité,
il n'a pas de majorité. En plus de ça, on a l'impression qu'il est en permanence sur la sellette. C'est-à-dire que déjà, François Bayrou, il peut sauter à n'importe quel moment. Et en plus de ça, l'Assemblée elle-même peut sauter à n'importe quel moment, puisque là, on filme ça, on est le 10 juin, donc ça fait un an que notre cher président a dissous l'Assemblée, et donc il peut le refaire de nouveau. Alors après, les interprétations de la Constitution diffèrent entre ceux qui disent il doit attendre un an à compter de la dernière dissolution et ceux qui disent il doit compter un an à partir de la dernière composition de l'Assemblée. Enfin bref, le problème sera réglé d'ici 3 semaines, puisque à ce moment-là, les deux seront atteints. Donc bref, on a aussi le FMI et la banque, pardon, pas la banque centrale, la Commission européenne qui nous demande de rationaliser un peu nos comptes. Alors est-ce que cependant, vous êtes quand même un grand défenseur, je crois qu'on peut le dire, de la souveraineté, est-ce que on doit s'embêter avec les considérations des agences ou des institutions
Ah, on a,
internationales?
attendez une seconde. Absolument pas, à condition qu'on n'ait pas besoin d'emprunter.
Ouais.
C'est bien ce que disait De Gaulle, hein.
Ouais.
C'est si vous n'avez pas de dette, vous êtes souverain.
Oui.
Mais à partir du moment où vous avez emprunté de la dette à Pierre, Paul et Jacques, c'est Pierre, Paul et Jacques qui détermine votre politique, hein.
Tout
C'est,
à
faut pas
fait.
oublier que la dette, ça a toujours été dans l'histoire un instrument d'asservissement.
Oui.
C'est-à-dire, si vous voulez que les gens se tiennent tranquilles, vous leur faites acheter leur maison, quoi. C'est toujours été le plus vieux truc, quoi. Ensuite, ils n'osent plus bouger parce que peut-être le crédit sera pas renouvelé. Donc, il y a deux hypothèses qu'on peut faire, parce que honnêtement, ça fait des années qu'on le voit venir, ce coup-là.
Oui, bien sûr, c'est pas nouveau.
C'est pas nouveau, on en a parlé, je sais pas combien de fois. On a parlé, bon, il y a donc que deux possibilités. Ou ils sont complètement crétins, ce qui est l'hypothèse la plus probable. Et ils en foutent de ce qui se passe l'année prochaine ou n'importe quoi parce qu'ils ne peuvent pas réfléchir le lendemain du. Ou alors c'est volontaire pour faire tomber la France et enfin qu'elle obéisse, qu'elle cesse d'être l'orgueilleuse nation qui envoie péter Bruxelles ou qui envoie péter Washington ou qui envoie comme elle l'a fait si souvent dans son histoire. Donc la question c'est est-ce que cette dette, elle a été accumulée de façon à nous enlever la dernière de nos souverainetés, c'est-à-dire la possibilité de. Je sais pas, mais moi, la deuxième hypothèse me paraît pas complètement fausse.
Ouais, bah en tout cas des gens comme
Surtout si
ça
ça permet
qui.
à tout le personnel politique de s'enrichir grassement en
Oui.
piquant de l'argent dans la caisse comme ils l'ont tous fait. Donc,
Oui,
si vous voulez, là,
pour l'instant ils
vous
s'embêtent
avez
pas.
un petit intérêt personnel à se faire ruiner la France, quoi.
Ouais. Oui, bah forcément, moi je peux pas sonder les âmes et je connais pas non plus les messageries privées de chacun. Mais oui, en vrai la question se pose parce que tout le monde est au courant du problème. Ça fait, je veux
Ça,
dire,
depuis Rocard, attendez,
ouais.
ça, Rocard nous annonçait ça dans les Rocards, c'était il y a 30 ans.
Ouais.
Rocard, il disait, attention, il va se passer des trucs vers 2010-2020,
Ouais,
si on fait pas gaffe. Voilà,
tout à
donc
fait.
on le
M
savait.
Michel Rocard avait écrit dans les années 80, début 90, je sais
Ouais.
plus, un livre blanc qui était
Ouais.
assez remarquable sur le système de retraite,
Ouais.
où il disait, voilà, normalement, dans les années 60-70, c'était pas un problème, puisqu'on avait
Un
pardon,
retraité
un
pour
retraité
5
pour
ou 4
quatre
5.
actifs dans les années 70, en courant 74, ces années-là. Et d'ici quelques années, d'ici quelques décennies, il a vu le truc venir, et c'était pas un coup de
Bah, il
génie, je veux dire, tout
suffit.
le monde le
Vous savez,
savait.
il faut bien dire un truc sur la démographie. La démographie, c'est quand même un truc absolument. C'est à peu près la seule chose en économie où vous pouvez faire des prévisions. Un type qui n'est pas né
Oui.
aujourd'hui, il ne sera pas là dans 40 ans.
Ouais, c'est
Ça,
clair.
alors là, ça,
C'est
c'est.
clair.
Donc, si vous voulez, la démographie, c'est vraiment. Vous pouvez. Il peut y avoir des rebonds de la natalité, vous les prenez
Oui.
en compte, comme ça s'est passé dans les années 45 à 62, mais celui qui n'est pas né, il ne sera pas là, donc il ne pourra
Oui,
pas
c'est
payer.
ça.
Donc, on a vu à partir d'un certain moment l'écroulement de ceux qui ne seraient pas là, quoi.
Tout à fait.
Donc, c'était pas difficile de faire. C'était même pas des prévisions, c'était des projections.
Oui, absolument. Et c'était des projections, franchement, plutôt raccord. Là, j'ai plus les chiffres dans la tête, mais j'ai lu des bribes de ce livre blanc il y a quelques semaines, et je me souviens que oui, c'était à peu près la vérité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est à 1,7 actifs pour un retraité, et c'est à peu près ce qu'estimait le rapport de Rocard, à peu près 1,6 actifs par retraité aux alentours de 2020. Voilà, on y est. Donc forcément. Ça aussi, ce système de retraite, il pèse énormément sur le budget de la France
Mais
et sur le
c'est le
pouvoir d'achat
système
des.
public.
Ouais, absolument,
Parce
bien
que le
sûr.
système privé, l'Agirc-Arrco,
Ouais.
il est capitalisé en
Ah
partie.
oui, bien sûr. Bah.
C'est-à-dire que c'est le fait qu'on n'ait pas capitalisé le secteur public, parce
Ouais.
que ça aurait forcé à augmenter les impôts il y a 10 ans.
Ouais. Absolument. Et alors, je crois que malheureusement, les systèmes de fonds de pension en France, ça représente que 1% du versement des retraites. Alors qu'ailleurs, c'est largement plus de
Alors,
10%,
je vais
quoi,
vous dire ce qui va
globalement.
arriver à ces 1%.
Ouais.
On va leur piquer.
On va leur piquer, bah oui, parce que les
Ça leur fera les pieds.
99% restants, on va dire,
Ils
il y a
vont
pas
voter à la
assez.
majorité.
Ouais.
Et comme ils ont la majorité, n'est-ce pas,
Bah,
ils ont
comme
le
ils sont
droit de piquer.
99%.
Ils ont le droit d'aller piquer les 1%, quand même.
Ouais, c'est
Non,
clair.
ça me paraît la justice sociale, ça, non?
C'est clair, parce que alors les dépenses de retraite en France, ça représente environ 14 % du PIB, soit 4 points de PIB de plus que la moyenne de l'OCDE. En plus de ça, on a aussi un fait assez exceptionnel en France, c'est-à-dire que on estime, alors c'est pas juste en prenant en compte bien sûr la pension de retraite, mais c'est en prenant en compte l'ensemble des dépenses et puis des recettes des retraités, c'est que le niveau de vie d'un retraité aujourd'hui en France est légèrement supérieur à celui d'un actif. Et est-ce que c'est un système en soi normal, surtout quand on est dans un système par répartition, parce que ce serait par
Mais surtout
capitalisation, j'ai envie de dire, c'est
quand
leur
on est en
argent.
déficit.
Oui, en plus de ça.
Quand on est en déficit,
Ouais.
c'est-à-dire qu'on emprunte de l'argent, je ne sais pas qui, ceux qui bossent, j'imagine, pour continuer à payer ceux qui ne bossent pas. Moi, je trouve que les systèmes, un système comme le système suédois, où ce sont des fonds de pension, il y a 4 ou 5 grands AP Fonden, ce qui veut dire les fonds de pension. Et dans le fond, les pensions varient. Dans la réalité, avec l'évolution du PIB nominal. C'est-à-dire que si le PIB nominal monte, les gens gagnent leur vie. Donc, il est curieux d'avoir bâti un système où votre niveau de vie va monter ou se maintenir sans prendre absolument en considération ce qui arrive au reste de l'économie. C'est
Oui.
complètement farfelu, ça, c'est de la folie.
Oui.
C'est-à-dire que, ben, on dit, ben, nous, on pique 14% du PIB qui est à 100, là, donc on pique 14. Puis si le PIB tombe à 90, parce qu'il ne sait pas ce qu'on va, on va piquer 14 de 90
Oui.
pour maintenir ses retraites.
Oui,
C'est-à-dire
bah
qu'on va
oui.
piquer 16 ou 17,
Oui,
c'est-à-dire que
c'est
les
ça.
autres, ils vont en prendre un coup de 5 ou 10% dans la tête, quoi.
Oui.
Ceux qui travaillent.
Oui, absolument.
Mais c'est complètement farfelu.
Ouais. Et du coup, il y a un grand débat en ce moment, à chaque fois, alors qu'il ne mène jamais à rien, mais François Bayrou nous explique que globalement, on va devoir faire des efforts pour rétablir ce budget, c'est-à-dire en gros, travailler plus et
Oui,
payer plus.
c'est comme de mettre François Bayrou au régime, hein, vous n'avez pas vu. Il a un cimetière à poulet, mon Dieu.
Le
On
bidon
sent
qui...
l'athlète, là.
Ouais, c'est clair. Et simplement, on a l'impression que c'est toujours les mêmes qui doivent faire des efforts, et ce, mais depuis 40 ans, quoi.
C'est pas toujours les mêmes, c'est toujours ceux qui ne sont pas inscrits dans les textes. C'est-à-dire que. Ben voilà, on vous a promis 14%, une retraite, etc. Et comme si c'était descendu du Sinaï avec les 10 tables de la loi, on peut rien changer. Donc c'est quand même curieux, cette génération qui arrive à la retraite, elle n'a pas fait d'enfant. C'était un choix. Et pourquoi leur demander une retraite? Puisqu'elle n'a pas fait d'enfant. Dans une retraite par répartition, si elle a fait
Oui,
des enfants.
oui. Non, alors ce qu'ils adorent faire, c'est faire venir les enfants des autres.
Oui,
Et
mais
demander
qu'ils ont
aux
deux
autres de faire des
chômages.
enfants pour eux. Oui.
Qu'ils ont deux
Oui.
chômages, alors c'est pas vraiment,
Alors là,
Pierre.
on a effectivement, vous mettez le doigt sur quelque chose, c'est qu'on a un problème un petit peu circulaire, c'est-à-dire que ça fait 30 ans globalement qu'on nous explique que la dénatalité n'est pas vraiment un problème, puisque de toute façon, on va faire venir des gens, notamment du continent africain et d'ailleurs, pour rééquilibrer les retraites, en disant bah on manque de jeunes, et ben bah, on va faire venir des jeunes d'ailleurs, et on va voilà. Le problème, c'est que déjà, on a un souci même avec eux, puisque cette immigration ne se suffit pas à elle-même pour couvrir ses propres besoins à elle-même. C'est-à-dire
Non
qu'on a
seulement ça,
besoin
mais
d'aide
je vais vous
sociale.
dire un truc extraordinaire. Elle vieillit aussi.
Elle vieillit aussi, oui,
Donc
bien sûr.
elle accumule des droits à la retraite, auxquels elle n'a pas cotisé d'ailleurs.
Oui.
Et donc, on va se retrouver aujourd'hui avec toute une partie de la population qui n'aura jamais travaillé
Ouais.
et qui aura droit à la
Ouais.
retraite.
Et il se passe un phénomène parce qu'on a des aides sociales extrêmement faciles à acquérir. On a un phénomène qui est complètement incompréhensible dans un pays normal, c'est-à-dire que, en gros, les premiers immigrés qui arrivent en France, généralement, c'est des gens qui ont envie de travailler, qui y travaillent, voilà, pas beaucoup moins que les
Et
autres,
qui venait pour travailler
et qui
d'ailleurs.
voilà, qui venaient pour travailler, qui venaient pour avoir une vie meilleure, etc. Et à chaque fois, ce qu'on observe, c'est que les immigrés qui arrivaient dans les années 80, ou même juste les premières générations, même ceux qui arrivent aujourd'hui, globalement, ils travaillent. Ensuite, leurs enfants travaillent beaucoup moins et leurs petits-enfants travaillent encore beaucoup moins. Du coup, rien qu'en prenant cette frange de l'immigration, on voit qu'on a aussi un système avec une balance très déficitaire à long terme. Et on a pris ce système en disant ça va combler l'autre système qui, avec en gros le système français de souche, on va dire, qui lui aussi arrivait à être déficitaire. Sauf que là, du coup, on a deux colonnes déficitaires.
C'est ce que j'appelle l'économie keynésienne du saveur camembert. Ouais. Je vous ai raconté l'histoire, le savait avec le sergent, comment il s'appelle le sergent d'ailleurs, je sais plus, je vais retrouver le nom, le sergent qui donne l'ordre au saveur camembert de faire un trou pour mettre les ordures. Donc il fait un trou, il met les ordures dedans. Il lui reste de la terre. Donc il dit au sergent, qu'est-ce que je dois faire? Et le sergent dit, vous ferez 15 jours au poste, parce que vous n'avez pas fait un trou assez grand pour mettre à la fois les ordures et la terre. C'est imbattable, ça. Donc, si vous voulez, c'est le système du sapeur camembert. On a un trou, et on fait à côté un autre trou. Oui. En pensant que, je sais pas, les deux trous vont se compenser, mais non, ça fait un plus gros trou.
Oui. Et fatalement, c'est souvent comme
c'est
ça.
C'est l'histoire d'un peu. En fait, je vais vous la raconter, elle est très bête. C'est mes histoires préférées, mais elle fait jamais rire personne. Mais enfin, ça fait rien. Moi, ça me fait rire. C'est l'histoire d'un paysan qui est justement dans sa ferme et qui se rend compte que son trou à ordure est plein. On est embêté. Il va au marché pour acheter un nouveau trou. Donc, il prend son camion, il achète son nouveau trou, de beau trou, il le met derrière, il garde deux trous de temps en temps, puis à un moment, il se retourne, le trou est plus là, quoi. Alors il fait marche arrière, il tombe dans le trou. Bon, c'est pas une histoire. Moi, elle m'a fait toujours rire. Mais enfin, c'est une histoire surréaliste. Mais enfin, c'est un peu la description de la politique française. Si vous voulez, un jour on va faire marche arrière, on va tomber dans le trou, quoi.
Ouais.
Mais il y est là, le trou.
Mais oui, cela dit, il faudrait peut-être qu'on y soit quand même une bonne fois pour toutes. Et alors, il y a aussi une question, bien
mais
sûr.
Mais attendez, réfléchissons une seconde. Ça veut dire qu'on est en train de bâtir un système où on a distribué des droits qui ne sont pas gagnés.
Mmh.
Bon, si vous distribuez des droits qui ne sont pas gagnés, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en fin de parcours, ces droits ne sont pas payés, puisqu'on n'a pas créé la valeur pour les payer. Donc ça veut dire que tous ces gens qui s'imaginent qu'ils ont des retraites qui vont leur permettre de vivre mieux que leurs enfants, ils se mettent le doigt dans l'œil. C'est pas comme ça que ça va se passer. Je sais pas comment ça va se passer, mais c'est pas comme ça que ça va se passer. Donc j'essaye simplement de dire aux gens, inscrivez-vous à l'université de l'épargne, parce que vous feriez aussi bien de prendre à gérer votre épargne, parce que vous aurez rien de l'autre côté.
Ouais.
Mais c'est tellement évident, si vous voulez.
Ouais, bien sûr.
Si on vous raconte des sornettes et que vous les croyez, ben vous êtes déçu quand vous avez rien le soir de Noël au pied de l'arbre, quoi.
Ouais. Absolument.
C'est ce que disait encore ce bon Reagan. Il disait, la différence entre la gauche et la droite, c'est que la droite croit en Dieu et la gauche croit au Père Noël. L'embêtant, c'est que le Père Noël, il n'existe pas. Moi, je trouve ça au poil. C'est les gens qui croient aux retraites, ils croient au Père Noël, ils devaient tous être de gauche.
Oui. Bah oui, bien sûr. Bien sûr. Et alors, il y a la question de l'âge aussi sur la retraite. C'est-à-dire que aujourd'hui, en France, c'est une question très, très épineuse. Alors, moi, je vois la chose de la manière suivante. C'est-à-dire que l'âge moyen effectif de cessation d'activité en France, il est de 68,8 ans, comparé à 64-65 ans dans la plupart des pays développés. Et les Français sont à la retraite, alors en moyenne 23 ans pour les hommes et 27 ans pour les femmes, puisque aujourd'hui on vit beaucoup plus longtemps qu'avant, alors que l'âge de départ à la retraite n'a pas fondamentalement
vous
beaucoup augmenté.
Vous savez qu'on dit toujours que les femmes gagnent moins que les hommes.
Oui.
Ben, si vous ajustez leur salaire pour le fait qu'elles vivent à la retraite 3 ou 4 ans de plus, elles gagnent plus que nous.
Oui.
C'est dégueulasse, ça.
Ouais, c'est dégueulasse. Ouais, ouais.
On devrait payer plus que les femmes, beaucoup plus, parce qu'on n'est pas assez payé plus que les femmes.
Oui, oui.
Je trouve ça scandaleux, parce qu'on vit beaucoup moins longtemps.
Je pense qu'il faudrait faire une loi pour augmenter le salaire des hommes.
Augmenter le salaire des hommes et baisser le salaire des femmes, parce qu'elles vivent trop longtemps. D'ailleurs, on va demander à Thalie de la présenter, tiens.
Oui, ça, je pense.
Ou alors, il faut mettre les femmes en euthanasie plutôt.
Oh putain, quelle horreur.
Ah ben non, c'est la logique de ces gars-là. Hein.
Oui, non, mais je sais.
C'est que des erreurs, je suis d'accord avec vous.
Je sais, j'essaye de pas trop me mettre à leur place. par conséquent, est-ce que quand même il va falloir, encore une fois, augmenter l'âge de départ à la retraite en France, ou est-ce que c'est un petit peu un faux problème?
C'est complètement un faux problème, si vous voulez. C'est, vous savez pourquoi on avait mis la retraite à 60 ans en Allemagne, je vous l'ai dit. Bismarck, c'est le premier.
Ah oui.
C'était Bismarck, on lui avait demandé, puisqu'il voulait empêcher le marxisme et tout de se développer, donc il avait fait un système de retraite, c'était les premiers systèmes sociaux, et il avait demandé à ses conseillers à quel âge meurent les ouvriers, 60 ans, donc on avait mis la retraite à 60 ans. Mais maintenant, ils meurent à 77 ans. Donc ça fait 17 ans, c'est quand même beaucoup. Si le type commence à travailler à 25 ans, puis ensuite il travaille plus de jusque de 60 à 77 ans, ça veut dire qu'il n'a pas travaillé la moitié de sa vie. Donc il y a quand même un petit lot là. Donc, encore une fois, il n'y a pas de solution si vous avez des réglementations. Donc ce qu'il faut, c'est la liberté. Ouais. C'est-à-dire que, par exemple, dans la... les professeurs de médecine. Je crois qu'on les met à la retraite à 65 ans, c'est ce qu'on a fait avec Raoult, là. Mais quand vous pensez au capital intellectuel que représente Raoult, mettre ce capital à zéro du jour au lendemain, c'est une imbécilité totale.
Ouais. En plus de ça, sur certaines professions, comme justement les médecins, on a un problème de creux générationnel.
Mais bien sûr, parce qu'il y avait ce crétin de Juppé qui a mis des... un numerus clausus. Clausus,
voilà, absolument.
Donc maintenant, il y a un désert médical partout.
Ouais, donc numerus clausus, je crois que c'était, il fallait avoir 9 médecins pour 100 000 habitants par an, quelque chose comme ça.
Ce qui s'est passé, c'est que les femmes qui sont beaucoup plus intelligentes et plus travailleuses, elles ont toutes passé médecine. Ouais. Et puis ensuite, quand elles arrivent à 30 ans, elles disent, ça ne veut rien, maintenant j'aimerais un poste où je reste... Donc elles sortent du domaine concurrentiel de la médecine libérale et elles vont se coller dans des administrations. Et du coup, on a une pénurie de médecins, parce qu'autrefois, comme il y avait des hommes, ils restaient tous dans la médecine libérale à travailler 80 heures par semaine. Ouais. Maintenant, c'est fini. Donc, on n'a absolument pas vu la différence de profil de carrière entre ce que voulaient les femmes et ce que voulaient les hommes.
C'est vrai.
Et donc, on se retrouve aujourd'hui avec des déserts médicaux partout.
Tout à fait.
Mais il faut dire merci, Monsieur Juppé, quoi. Mm-hmm.
Ouais, tout à fait.
Et... donc, si, encore une fois, pourquoi on ne laisse pas les gens libres?
Ouais.
Vous prenez votre retraite, il y a toute une série de professions, on dirait, vous pouvez prendre votre retraite quand vous voulez.
Ouais.
Pourquoi?
Oui, je suis tout à fait d'accord. Et justement, en plus, quand on a des creux générationnels comme ça, alors le numerus clausus, maintenant, il y a plus, donc on devrait avoir plus de médecins.
Quand je vais dans l'Union, tous les médecins sont roumains, marocains.
Mais justement, on devrait avoir un plus grand nombre de médecins formés en France à partir de maintenant. Simplement, c'est bien aussi d'avoir des vieux de la vieille, qui sont là aussi pour faire quelques années avec les médecins plus jeunes. C'est un peu comme dans le domaine nucléaire, où pareil, on a un creux générationnel d'à peu près 20 ans, 25 ans. Et du coup, on va avoir de nouveau des ingénieurs nucléaires qui vont sortir de nos grandes écoles. Mais
ce n'est pas les ingénieurs nucléaires, c'est les gars des arts et métiers, c'est celui-là dont on a besoin. Or, ils sont tous partis, et ils partent à la retraite un peu plus tôt. Donc, on est en train de faire encore une fois une armée de généraux et il n'y aura pas un troufion, quoi. Ça ne peut pas marcher. Donc, tout ça, c'est, vous vous rendez compte, des erreurs de prévision 30 ans après qu'ils aient été faits, qu'on a pris les décisions. Donc, ce qu'il y a d'étonnant, c'est qu'on continue. Moi, je vais vous dire quand même. Bon, je vis à Avignon, j'aime beaucoup mon médecin, qui s'appelle M. Elbez, là, il est très bien. Quand je vais le voir, je crois que ça me coûte 27 euros, là. Bon, il a travaillé 10 ans, il a 30 ans d'expérience. 27 euros, ça me paraît pas...
C'est ridicule.
Ça me paraît pas très élevé. Par contre, quand le chien de ma fille est malade, on va chez le vétérinaire, ça nous coûte 130 euros.
Ouais.
Donc, tant qu'on continuera à payer les vétérinaires 130 euros et les médecins 27, on aura tous les vétérinaires qu'on veut, il n'y a pas de problème. Et assez peu de médecins, quoi, non? Il est payé moins qu'une femme de ménage à l'heure.
Bah, aujourd'hui, un médecin, évidemment, il devient vétérinaire ou chirurgien esthétique.
Ou chirurgien esthétique, ou alors dentiste.
Oui.
Dentiste, alors, vous en prenez plein la tête. Mais, plein les dents. Donc, si vous voulez, s'il y a une pénurie de médecins, je vais vous dire un truc, dans la campagne, vous mettez le médecin à Paris, si vous voulez, à 30 euros, et vous mettrez le médecin à Brive à 70 euros. Et vous verrez que vous aurez plein de médecins à Brive. Donc on ne peut pas prétendre, c'est complètement idiot, de payer tout le monde pareil et de prétendre qu'il y en a qui vont aller dans des endroits inhospitaliers. Mais non. Ouais.
Oui, parce qu'à chaque fois, alors c'est ridicule, dès que ce sujet est évoqué à la télévision, à chaque fois c'est la même chose sur les déserts médicaux. Il faut obliger des médecins à aller s'installer dans des endroits où ils ont pas envie de vivre. Voilà, donc à chaque fois on réfléchit tout par la contrainte, l'interdiction ou éventuellement la subvention.
C'est ce que me disait mon vieux professeur de monsieur Cluzeau, que j'aime beaucoup à Toulouse. Il disait, il y a deux matas de gestion d'économie, la main invisible d'Adam Smith. C'est-à-dire que s'il manque beaucoup de médecins à Brive, eh ben, on les paye beaucoup plus à Brive, quoi. Ça arriveront.
Oui.
ou c'est le grand coup de pied dans le derrière de Staline. Ouais. Mais nous, on a toujours le grand coup de pied dans le derrière de Staline ouais. comme solution. Ouais. Jamais la liberté. Mais laissez les gens libres. Laissez les gens libres.
Bah, je suis un peu plus d'accord, bien sûr. Et alors, sur ce problème des retraites, évidemment, il y a un mot qui apparaît légèrement dans le débat public, mais qui est encore trop absent, c'est le terme capitalisation. Ce terme fait peur, visiblement, à toute la classe médiatique et politique de ce pays, mais à la fois, notre système de retraite est particulièrement exceptionnel, puisque la plupart des systèmes de retraite dans le monde, en tout cas dans le monde développé, ont une part de répartition et une part de capitalisation.
Mais d'ailleurs, le système où j'ai vécu en Angleterre, c'est pas idiot. C'est-à-dire que ce que vous avez, c'est que vous avez une retraite minimum. Allez, je sais plus combien elle est. Je la touche.
Oui,
j'attendais, ça doit être quelque chose.
Je crois que c'est 180 pounds par semaine, un truc.
Oui, c'est de l'ordre de 200 pounds par semaine, ouais. quelque chose comme ça. Donc ça, tout le monde reçoit, parce qu'ils ont cotisé ou pas, d'ailleurs, parce qu'ils ont vécu en Angleterre. Moi, j'ai travaillé en Angleterre 20 ans, donc j'y ai droit. Je reçois mes 200 livres par semaine.
C'est ça,
par
c'est 180 livres par semaine.
Par semaine, c'est ce que je reçois. Et puis le reste. Des merdendésich, vous faites vos retraites vous-même, quoi. Mmh. Donc il y a des fonds de pension, il y a des spécialistes qui vous montrent comment investir, etc. Il y a des vrais métiers. Et c'est ce qu'on a essayé de faire avec cette bonne université de l'épargne. C'est pas que je vais faire de la pub, mais c'est que vous apprendre à gérer
votre retraite.
Mais par contre, ça veut dire que vous pouvez pas prendre pendant que le gars travaille la moitié de son salaire pour aller payer des gars qui foutaient rien.
Ouais.
Donc ça veut dire que vous, si les gars en France pouvaient garder la moitié de ce qu'ils gagnent et l'investir dans les recommandations de l'université de l'épargne, dans 5 ans, on n'aurait plus de problème de retraite. Quoi.
Ouais. Ah bah oui, c'est clair.
C'est simple.
C'est clair. En plus de ça, si on pouvait faire ça et enlever du coup toutes les cotisations qui vont avec,
c'est la contrepartie.
Si on pouvait mettre tout ce qu'on paye en cotisations de droit pour la retraite sur les marchés financiers, alors là, je crois qu'on n'aurait pas une once de problème de retraite.
Non seulement ça, mais la France se retrouve avec des capitaux disponibles. Les entreprises françaises, le coût du capital serait bas, le franc français serait fort.
Absolument.
Enfin, je veux dire, ce serait.
Et alors, à ce titre, je voudrais parler d'un exemple de comment on passe d'une retraite par répartition à une retraite par capitalisation, parce que ça peut paraître un petit peu abstrait pour des gens. Et alors, j'avais vu un fil passer sur Twitter l'autre jour de Polydamas que j'apprécie tout particulièrement. Qui a pris l'exemple du Chili. Comment le Chili, au début des années 80, est passé d'un système par répartition à un système par capitalisation. Donc à l'époque, c'était Pinochet qui était au pouvoir, qui a demandé au type de Chicago comment qu'on fait, quoi. Et du coup, c'est comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que les pensions qui étaient en cours étaient garanties, puisque forcément, les types avaient déjà contribué au système de retraite, donc on va pas leur demander de tout abandonner. Donc voilà, les systèmes, les pensions en cours sont garanties. Chaque citoyen décidait ensuite de son plein gré si vous voulez changer de système ou non, répartition ou capitalisation, vous choisissez. Et tous les nouveaux actifs qui arrivent sur le marché du travail, eux, ils passent à la capitalisation. Donc, par conséquent, la notion de cotisation salariale ou patronale, en fait, disparaît. On parle juste de salaire net et de super brut. Il n'y a pas de salaire brut, ça, on s'en fiche. C'est ce que vous coûtez à votre employeur et puis ensuite ce que vous avez entre les deux. Hop, ça part en capitalisation. Donc chaque actif met au moins 10% de son salaire, donc super brut mensuel, sur un compte d'épargne retraite privé. Pendant ce temps, les retraites déjà existantes doivent donc toujours être payées. Donc il y a une période comme ça de flottement où on paye deux fois les retraites en quelque sorte. C'est-à-dire qu'on doit...
En fait, vous payez, si vous avez déjà cotisé 20 ans à l'ancienne retraite et que vous avez encore 20 ans à bosser, on vous garantit les 20 ans à l'ancienne retraite et puis vous pouvez faire la capitalisation sur les 20 ans qui arrivent et vous serez mieux à la fin.
Voilà.
Et c'est pas difficile de calculer avec une règle de 3 et une table de dévalorisation la retraite que vous avez déjà acquise et quelle est sa valeur, et puis ensuite vous gardez ça, quoi. Mais à part de vous, en quelque sorte, vous gardez la valeur actualisée de la retraite que vous avez déjà acquise, mais la retraite à venir, on passe à la capitalisation point barre, quoi.
Voilà, absolument.
Et c'est ce qui s'est passé. Et du coup, par exemple, Gafcal, ma société mère, en quelque sorte, a des rapports les meilleurs possibles avec la principale banque d'affaires du Chili, qui s'appelle Larravial, et on a créé avec eux un fonds sud-américain d'obligations des pays sérieux, etc. Donc vous avez aussi l'émergence au Chili d'une vraie industrie financière compétente.
Ouais. Ouais, c'est vrai.
Et qui était contente, qui sont des clients depuis toujours, qui nous aiment beaucoup. Donc ça permet au pays de... Et une fois que vous avez votre retraite par capitalisation, c'est curieux, mais très souvent, vous ne votez plus à gauche.
Ouais. Oui, tout à fait, ça a tout un tas d'effets.
C'est pour ça d'ailleurs qu'ils ne le font pas.
Ouais. Oui, alors c'est très intéressant. Et du coup, donc, vous avez une période de flottement comme ça où on paye deux retraites à la fois, et à chaque fois, ça s'estompe, puisque bah, les retraités les plus vieux bah, commencent à mourir. Et puis ensuite, les nouveaux retraités qui arrivent dans...
Bah, ils ont capitalisé.
Bah, ils ont capitalisé un petit peu, donc au début...
Et ils peuvent capitaliser selon leur choix. C'est-à-dire, ouais. J'avais vu, vous pouvez avoir que des obligations si vous êtes très... Vous pouvez avoir que des actions, vous pouvez prendre des risques, vous pouvez... Et donc, vous devenez un partenaire actif de la gestion de votre retraite. Ouais. Ce qui vous permet de comprendre comment marche le système, c'est tellement mieux.
Tout à fait, absolument. Et donc, pendant quelques années, 40% du coût des retraites ont été couverts par la dette publique, donc dette qui fut achetée d'ailleurs par des fonds de pension eux-mêmes. Mmh. Donc on a aussi un système presque circulaire. Et par des fonds de pension étrangers. Et 16 ans plus tard, le double financement des retraites s'estompe complètement, on paye quasiment plus rien. Les nouveaux retraités ont capitalisé donc pendant 16 ans, donc ce qui permet déjà de couvrir une grande partie de leurs besoins, pendant que les actifs ont une charge de cotisation beaucoup plus faible et donc peuvent consommer davantage et investir davantage. Et donc 16 ans plus tard, donc on se retrouve en 1997, le Chili se retrouve en excédent budgétaire. C'est quand même dingue.
Ben, c'est pas difficile si on faisait la même chose en France. Ça veut dire que les 14% qu'on verse chaque année en retraite pour les retraites des fonctionnaires, là, ben, au bout de 16 ans, ils n'existeraient plus.
Ouais, quasiment plus. Ouais.
Et notre déficit est de 5% du PIB, ou 6%, donc ça veut dire qu'on se retrouve en excédent.
Oui.
C'est vite vu.
Ouais. Donc on pourrait, avec une simple mesure...
Ouais. Ramener la France à l'équilibre.
Ramener la France à l'équilibre budgétaire.
Budgétaire, mais pas instantanément, mais sur ce...
Ouais. Oui, oui, bien sûr.
Avec la différence qui est achetée par les obligations, qui savent que dans 10 ans, il n'y en aura plus, donc c'est... Et les sociétés françaises, donc, ont de mal à se financer, donc elles peuvent faire des augmentations de capital pour embaucher, ouais. etc. Et puis, comme le coût du travail baisse de moitié, ben, à ce moment-là, on se retrouve avec une industrie en France.
Ouais. Et alors, il faut dire aussi que ce système-là, il a eu un franc succès, du moins au début, puisque bah, les fonds de pension avaient généré une capitalisation excellente avec un rendement moyen de 12% par an sur cette période.
C'est beaucoup.
Alors, c'est beaucoup. Forcément, il faut dire que sur la période 1981-1997, les marchés
tout
financiers étaient vraiment... voilà,
La période glorieuse.
Tout est monté, forcément.
Il n'y avait que des génies.
Voilà, ils auraient commencé à la décennie précédente, ça aurait été un peu plus laborieux.
Mmh.
Mais à partir de 80, tous les signaux étaient au vert. Donc là, forcément, sans vraiment le vouloir, le système de capitalisation de retraite du Chili a plutôt bien timé le marché, en quelque sorte. Mais après, ça a continué d'être très vertueux. Alors, 40 ans après, ce modèle, il a été un petit peu réformé. Déjà parce qu'il s'avère que 10% du salaire, c'est pas vraiment suffisant dans beaucoup de cas pour vraiment capitaliser comme il faut. Et puis, il a fallu aussi compléter la capitalisation par un minimum vieillesse. Donc, c'est voilà. Comme ce que vous aviez évoqué avec le Royaume-Uni. Voilà, parce qu'il y a aussi des éléments de la société qui sont démunis, qui n'ont pas réussi pendant leurs années d'activité potentielle
ça,
à capitaliser.
C'est la solidarité nationale, c'est très
oui,
bien.
Absolument.
C'est très bien.
Ouais. Mais ça, mais les gens seraient tout à fait d'accord pour participer à ça, hein, de toute façon.
Et en plus, si vous voulez, ça leur plairait, parce qu'il y en a qui pourraient prendre des actions, d'autres qui prendraient autre chose.
Ouais.
Mais ce qui se passe aussi, c'est que, je l'ai très bien vu en Suède, où il y a eu la même transformation,
ouais.
Ce qui se passe, c'est qu'à ce moment-là, le pays devient assez facilement excédentaire d'épargne.
Ouais.
Donc il se passe un phénomène curieux, c'est que cette épargne, comme les marchés financiers locaux sont trop petits... Ils vont l'investir dans le monde
ailleurs,
entier.
Oui, tout à fait.
Donc ça règle le problème de la démographie.
Ouais.
Donc le fait qu'il y ait moins d'enfants, vous vous en foutez, puisque vous achetez des actions indiennes où ils ont des enfants, de savoir qu'en foutre. Donc il y a aussi un système d'équilibre qui se passe comme ça. Et donc quand vous êtes en excédent d'épargne, normalement vous devriez avoir une monnaie très forte.
Ouais.
Ben non, vous n'avez pas une monnaie très forte parce que tout le monde sort pour aller l'investir à l'extérieur. Et quand vous êtes en âge d'arriver à la retraite, plus personne ne bosse, en principe vous devriez avoir une monnaie faible. Mais pas du tout, vous avez une monnaie forte parce que tout le monde fait rentrer dans le pays. Ce qui est bon que les vieux aient plein de pognon, c'est quand même mieux.
Ouais.
Donc, si vous voulez, il y a toute une série d'effets seconds comme ça, heureux,
ouais.
dont on ne parle jamais.
Oui, effectivement, c'est-à-dire que déjà, c'est beaucoup plus facile pour les gens d'embaucher, puisque il n'y a pas ce coût absolument gigantesque des cotisations, comme on a en France.
Vous avez parfois des systèmes de retraite qui sont différents selon les boîtes où vous travaillez, la SNCF ou je ne sais pas quoi. Là, vous transportez votre retraite avec vous, puisque c'est la vôtre. Vous la transportez, vous n'avez pas de système de « non, moi j'ai la SNCF
retraite ». Oui, parce qu'effectivement, en France, on a aussi le problème des régimes spéciaux, avec les 42 régimes spéciaux qu'il faudrait...
C'est fini, vous arrêtez tout ça quand même. Donc, si vous voulez, il y a tellement d'avantages, mais ça veut dire aussi que la gauche perd le pouvoir.
Oui, forcément, parce que aussi les gens se mettent à réfléchir à comment l'économie mondiale fonctionne.
Et est-ce que mon portefeuille est monté avec le type de gauche ou est-ce qu'il a baissé
Oui. Parce que apparemment, aujourd'hui, pour quelqu'un qui arrive à la retraite, aujourd'hui en 2025, le rendement annuel moyen de sa retraite, c'est 1%.
Oui. Ça me paraît pas beaucoup, mais...
C'est moins qu'un livret A.
C'est moins qu'un livret A. Non, mais ce qui s'est passé en Chili, c'est que une grosse partie de leurs activités sont des activités minières, en particulier le cuivre. Hein, et que le cuivre, pour des raisons X, Y ou Z, a été très très bas depuis 10 ou 15 ans. Mais avec le boom qui arrive, à mon avis, ça va aller mieux, quoi. Mais je veux dire, c'est que si vous étiez au Chili, vous avez fait 1%, mais si vous étiez aux États-Unis, vous avez fait 12%. Donc, Donc là aussi, c'est là où si vous avez acheté l'indice mondial, vous avez plutôt fait 7 ou 8.
C'est clair.
Le marché chilien, c'est quand même un marché de matières premières et des métaux plutôt.
Ouais. Et puis, évidemment, donc, ça laisse de la place pour mettre une partie de son argent dans les fonds de pension qui, eux, font leur tambouille. Mais évidemment, si vous mettez 10% dans les fonds de pension, il vous reste aussi pas mal d'argent que vous pouvez faire. Donc, vous pouvez faire votre portefeuille comme vous voulez, vous-même. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait à l'Université de l'Épargne. On paye déjà une blinde en cotisation et tout ça. Et même avec ce qui nous reste, on essaye de faire avec trois bouts de ficelle un petit portefeuille pour se dire, bon, j'ai quand même ça en plus de mes cotisations pour quand je serai vieux, quoi.
Et on arrive, on espère tirer 4 ou 5% réel. C'est mieux qu'un pour cent réel, quoi.
Oui, c'est mieux qu'un pour cent. Et quand je dis 1%, c'était 1% réel quand même, oui. Mais c'est sûr 4 ou 5% réel, c'est bien mieux, ouais.
C'est quand même un peu mieux. Encore une fois, sont des systèmes. Qu'est-ce que c'est qu'un système de retraite? C'est un système tel qu'il est bâti en France, où on vous dit vous allez travailler et on va vous garantir une retraite à taux fixe et que vous serez indexé sur je sais pas quoi jusqu'à pendant que tant que vous serez pas mort. Donc on garantit la stabilité du système économique. Or, il suffit de regarder l'histoire pour savoir qu'il y a des moments où vous avez 30 ans de merdier, où vous pouvez payer la retraite à personne ou pas, quoi. Je veux dire, si vous avez vécu entre 1914 et 1945, votre retraite, avec tous les gens qui avaient été tués, vous pouvez toujours vous brosser, il n'y avait rien, quoi. Donc, garantir une retraite, c'est Madoff.
Ouais.
Vous mentez.
Ouais.
Vous mentez à l'électorat en disant, je vous garantis ça. Vous pouvez pas. Vous pouvez pas l'assurer.
Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire que le système de retraite par répartition, c'est un Ponzi générationnel.
Voilà.
C'est un Ponzi générationnel. Ceux qui sont à la retraite aujourd'hui, ils sont contents parce qu'effectivement, on continue de leur verser leur truc. Mais il y aura bien une génération, à un moment donné, à qui on va dire, désolé mon pauvre monsieur, mais ce qu'on vous a promis, on peut plus le faire. Donc, va falloir payer les pots cassés.
Et à ce moment-là, il n'y en aura pas de monsieur Madoff à mettre en prison.
Non. Si. Non, mais il faudrait. Il faudrait.
Je sais pas, on pourrait mettre en prison, je sais pas, monsieur Macron.
Peut-être monsieur Macron, oui.
Monsieur Le Maire.
Oui, pourquoi pas.
Ils ont une bonne tête, ceux-là.
Ouais.
Ils ont des têtes à aller en prison.
Oui, non, mais parce qu'ils sont conscients du problème.
Ils le savent. C'est ça le plus scandaleux, c'est qu'intellectuellement, ils le savent. Et ils continuent à mentir. C'est vraiment le truc de Solzhenitsyn. Nous savons qu'ils mentent, ils savent que nous savons. Et il continue à mentir.
Oui, absolument.
C'est quand même extraordinaire de ne pas redire la vérité à ce peuple.
Oui. Et alors, en dehors des retraites, il y a aussi un autre budget qui bouffe beaucoup de ce qu'on a en France. C'est le budget du système de sécurité sociale, tout simplement.
Ça, c'était un parallèle.
Ça va un petit peu avec, effectivement. Alors déjà, parce qu'on a un problème de performance. Premièrement, c'est-à-dire qu'à la limite, on paye très cher, mais si on a un système très performant, pourquoi pas? Je rappelle que historiquement, c'était classé numéro 1 par l'OMS en 2000, et le système de santé français n'occupe plus le sommet des classements internationaux récents. Par exemple, l'indice européen de consommation de santé, le HCI, ne place plus la France dans le top 10 depuis 2009, même si elle est remontée très légèrement ces dernières années. Alors là, on a un problème. On a un problème parce qu'on dépense énormément. Et que derrière, on n'a pas un système qui est vraiment très satisfaisant.
Eh bien, vous avez aussi qu'il va être un peu coûteux, parce que justement, on a vu les hôpitaux pour contrôler. Maintenant, il y a la tiers des personnels des hôpitaux qui sont des grains de papier, donc ça ne sert plus à rien. Donc il y a aussi la prise de pouvoir des petits hommes gris.
Ouais. Et alors, je regardais un truc, c'était la France consacre 12,4% de son PIB aux dépenses de santé, données de 2020, ce qui la place au quatrième rang des pays de l'OCDE, alors qu'en termes de satisfaction, la satisfaction de la population quant à l'accès effectif à des soins de qualité n'est que de 71%, ce qui classe la France 21e sur 38 pays. Là aussi,
Ben voilà, mon cher ami, c'est
on a un énorme problème.
si vous avez un système dont le coût est nul pour les utilisateurs et qui vend un produit très désirable comme la santé, je vais vous annoncer une loi économique qui va vous surprendre, mais la demande devient infinie. En particulier la demande en provenance de l'étranger. Donc voilà, à des moments où il y a des tas de gens qui font du tourisme médical pour venir se faire soigner en France, avec l'aide, comment ça, médical, je sais pas quoi. Ben
L'aide
non, tout
médicale
ça,
d'État, ouais.
c'est bien triste, mais si vous êtes en... Vous pouvez... Moi, pendant des années, en Grande-Bretagne, j'étais assuré socialement, j'étais assuré par une assurance privée. Et où que j'aille dans le monde, j'étais couvert. Ça me
Ouais.
coûtait la peau des fesses, mais ça me
Ouais.
coûtait beaucoup moins cher que la sécurité sociale.
Ouais.
Mais ça me coûtait la peau des fesses.
Ouais. Parce qu'en plus de
Pour
ça,
moi et ma famille.
la sécurité, ce serait intéressant de proposer aux gens de ne pas payer la sécurité sociale, mais
Ce qui
d'adhérer
normalement
à
est
une
prévu dans les
assurance.
traités européens, mais qu'on a toujours pas
Ah
fait.
oui. Alors ça fait peut-être partie des rares trucs européens qu'on devrait implémenter, effectivement.
Ah, tout à fait. Dire, vous pouvez vous
Ça, c'est
assurer
pas une
auprès
mauvaise
des
idée.
assurances sociales suisses.
Ouais. Oui, c'est,
Vous
moi,
savez,
je suis
la
preneur, hein.
sécurité sociale, ça n'est qu'une activité de réassurance.
Ouais.
C'est
Ah oui, bien sûr, bien sûr.
donc vous pouvez demander à Munich Re, vous pouvez demander à Swiss Re, vous pouvez demander à SCOR de vous faire des programmes d'assurance et de les vendre en concurrence avec la sécurité sociale.
Ouais.
Et à mon avis, ce sera moins cher. Hein.
Ouais, c'est tout à fait possible, ouais. Bien sûr, bah forcément, puisque la sécurité sociale est un système qui n'a pas besoin d'être efficace.
Ben non, il n'y a
Donc,
pas de prix.
ouais, il n'y a pas de prix, donc
Il n'y a pas de
forcément,
prix,
tout a
donc
été administré.
tout est administré. Donc à partir du moment où il n'y a pas de prix de marché, ben vous avez un truc un peu bizarre, quoi.
Et puis, pour terminer cette réflexion, est-ce que aussi un gros problème de rationalisation des dépenses, c'est pas que on est dans un état extrêmement centralisé et que donc ce qui se passe à l'autre bout du pays, on se dit bon bah il y a un problème, on arrose, il y a pas de voilà,
Il y a
et
ça,
puis
mais
on
c'est pas
peut.
simplement centralisé, c'est que, je l'ai vu très bien, c'est que, au moment de la régionalisation de Mitterrand, là,
Ouais.
ce qui s'est passé, c'est que l'État centralisé faisait des choses.
Ouais.
Donc on a dit, non, maintenant, ça va dépendre des régions.
Ouais.
Donc ils se sont mis à faire les choses,
Ouais.
mais qui étaient faites par l'État centralisé. Mais c'est pas pour ça qu'on a arrêté l'État centralisé. Puis ensuite, les régions, ils ont dit, non, non, maintenant, c'est les grandes agglomérations. Donc ils se sont mis à faire la même chose. Donc on fait la même chose trois fois.
Ouais. Oui,
Partout.
bien sûr. Alors oui, il y a ce gros problème-là, oui, bien
C'est ce
sûr.
que dit Molinier, là. Elle dit ce qu'il y a
Ouais.
d'extraordinaire, c'est qu'il y a des triplés partout.
Ouais.
Donc,
Oui, elle estime, c'est l'IFRAP, oui, qui estime qu'on pourrait, rien qu'en enlevant tous les doubles échelons comme ça, on pourrait, selon elle, économiser 110 milliards.
Ben voilà, c'est quasiment le déficit, oui, un peu moins. Mais donc, il y a ça qui est possible, mais ce que ça veut dire aussi, c'est que ce qu'on ne dit jamais, c'est que si vous avez, par exemple, un permis de construire, s'il faut être déposé trois fois, allez, pas un idiot,
Ouais.
donc ça vous fait trois coups, c'est-à-dire.
Ouais.
Mais en même temps, ça veut dire que sur les trois, il y en a bien un des trois qui va dire non.
Ouais.
Juste
Oui.
parce qu'il s'est fait engueuler par la femme ce matin, là. Donc, à ce moment-là, ça multiplie les freins à l'activité.
Ouais, tout à fait.
C'est-à-dire, si le but du fonctionnaire, c'est de ne rien faire et de rien laisser faire, on leur augmente trois fois leur pouvoir de ne rien laisser
Ouais,
faire.
tout à
C'est-à-dire
fait.
qu'à ce moment-là, tout se prend en masse et on arrête de travailler tout le monde.
Ouais. Et il faut savoir que, alors, on a une chance en France, c'est qu'il y a plein d'entreprises, même internationales, qui ont envie de mettre des usines en France.
Oui, mais papa.
Elles peuvent pas.
Parce qu'elles sont pas les terrains.
Parce que il y a peut-être la région qui dit oui, mais il y a la communauté de communes qui dit non. Ou l'inverse.
Vous avez le crapaud à trois pattes.
Voilà, exactement.
Il y a toujours un gars qui dit non.
Oui. Oui.
Parlez-en avec Lisnard, c'est ce qu'il vous dit toute la journée.
Oui.
Lisnard, il raconte, bon, il doit faire des logements sociaux, il est d'accord. Mais pour faire des logements sociaux, il faut avoir des terrains. Mais ouais. Il se trouve que les terrains sont sur des endroits où il y a des trucs écologiques. Donc le ministère de l'écologie est interdit.
Ouais.
Donc le ministère de l'écologie est interdit de bâtir des immeubles parce que là, il y a des crapauds à trois pattes, j'en sais rien. Et donc à ce moment-là, l'État français met des amendes sur Lisnard parce que l'État français, dans l'écologie, a refusé un terrain à Lisnard, donc il ne peut pas faire ses immeubles. Ouais. Donc, vous dites, alors, l'État français me dit quelque chose, je ne peux pas le faire parce que je n'ai pas les terrains, et du coup, ce qui sont interdits par l'État français, et du coup, l'État français me taxe.
Ouais. Oui, c'est un système qui m'a l'air bien foutu, ouais, bien
roulé. C'est pour ne rien faire et payer des impôts, c'est parfait, ça.
Oui, c'est clair, c'est-à-dire qu'on a aussi ce problème, alors qui n'est pas foncièrement un problème purement budgétaire, mais qui est un problème, je dirais, peut-être plus social. C'est que, effectivement, à cause de la loi zéro artificialisation nette, on ne peut pas construire des terrains à partir de rien, et donc on ne peut pas construire tout un tas de logements à partir de rien. Et donc, ça mène aussi énormément de gens, notamment des actifs, à ne pas être propriétaires de leur logement. Ça aussi, c'est un gros souci, c'est-à-dire que l'économie est organisée de sorte que, pendant que vous êtes actif, pendant que vous travaillez, vous gagnez globalement presque rien. Parce que la taille des cotisations sociales, les contributions justement à la sécurité sociale, etc., ça prend tout, donc il vous reste quasiment rien. Et ensuite, vous attendez que vos parents crèvent, et c'est quand vous avez du coup 55 ans, quelque chose comme ça peut-être, que vous recevez cette fois-ci la maison des parents, et en plus de ça, vous devez quand même payer
des
trucs. Mais
ils ont trouvé la solution, c'est l'euthanasie.
Ouais.
Il suffit de tuer ses parents.
Ouais.
Bon, rétablir la peine de mort en France, quoi.
Ouais.
C'est une bonne idée, ça. Pour les vieux.
Oui, pour les vieux, oui.
Pour les vieux riches, il faut absolument les euthanasier tout à fait cessante.
Ouais.
Parce que ça assurerait une fluidité du capital.
C'est peut-être comme ça qu'on va payer les retraites, ou du moins qu'on va.
On va les tuer.
Voilà, on va peut-être.
Réduire leur.
Rassurer les marchés financiers comme ça. On va dire, bon, on a des retraites un peu trop élevées, on va peut-être zigouiller les vieux, et puis leurs actifs.
Tous les vieux de plus de 65 ans, allez, on les zigouille. Et on prend 30% sur l'héritage qu'on donne aux enfants.
30%, vous êtes généreux. Vous êtes généreux.
60.
Ah oui, 60, 65, 60, on peut y aller. Bah, quand on voit déjà ce qu'on
donc,
prend
si
sur les donations.
Donc, on arrive à la conclusion à la fin de tout ça, qu'on a des gros problèmes et que la seule solution, c'est de tuer les vieux. Et,
ouais.
Qu'est-ce qu'ils ont fait comme loi récemment?
L'euthanasie.
De tuer les vieux.
Et comme ça, c'est... Non, mais ça
vous...
Ouais, non, mais c'est cohérent. C'est cohérent,
c'est cohérent.
Ouais.
Vous dites qu'ils sont incohérents. Pas du tout.
Ok, ils ont peut-être trouvé la solution, du coup.
Ils ont trouvé la solution pour le problème de retraite, c'est l'euthanasie.
Intéressant. Évidemment, aucune des solutions qui n'ont été évoquées dans cette émission ne seront prises en compte. Enfin bon.
Sauf la dernière, à mon grand regret, parce qu'à 81 balais, je crains le pire, mais... Enfin.
J'espère que vous avez apprécié cette émission.
Sauf les vieux.
Sauf les vieux, peut-être, qui en ont pris pour leur grade. J'espère que vous avez apprécié quand même. Et que vous êtes fidèles à cette chaîne. On a dépassé les 400 000 abonnés. Youpi. C'est pas mal. Ça fait quand même une...
On doit être la plus grosse, une des plus grosses.
Ah, une des plus grosses chaînes, oui, en tout cas du milieu politique.
Sans soutien économique de quelque chose.
Oui, sans subvention, oui, sans effectivement. Ça m'intéresserait de savoir ce que font comme vu les magazines comme Franc-Tireur, etc., qui, eux, sont totalement dans la doxa du régime. Mais enfin bon, à mon avis, ça intéresse pas grand monde. Bref, je vous remercie encore une fois d'être parmi nous. Si ça vous intéresse, on en a parlé pendant l'émission, vous pouvez faire un petit saut sur l'université de l'épargne, où on propose tout simplement de l'éducation financière. En fait, on vous dit voilà comment ça marche, se faire un portefeuille. C'est extrêmement participatif, il y a un accès à une communauté de 8000 investisseurs, donc vous pouvez faire un petit tour là-dessus. À peu près tout le monde est franchement très très content de ce service, à tel point que nous-mêmes, ça nous étonne. On se dit, on est franchement fiers de nous. Enfin, voilà. Et sur ce, je vous dis un grand merci et à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur l'Institut des Libertés.